procédure de QPC est une procédure à la disposition de tous les citoyens. J'appelle ça la question citoyenne. Et encore faut-il pour cela que les citoyens la connaissent. Et pour cela, nous avons pensé que venir en région était utile parce que par le relais de la presse, par le relais des avocats, des magistrats, des professeurs, des étudiants, ça permet de faire connaître cette procédure qui existe maintenant depuis 10 ans et qui a un grand succès. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous-mêmes, membres du Conseil constitutionnel, nous ne sommes pas dans une tour d'ivoire. Nous voulons entrer en contact, ce que nous avons fait ce matin d'ailleurs, avec les magistrats, que ce soit les magistrats administratifs ou judiciaires, nous avons rencontré pendant une heure et quelques. C'est l'objet. Et puis, il y a aussi, mais ça on le verra la semaine prochaine, un souhait de relation avec les étudiants et les professeurs, puisque c'est à la faculté, à l'université, qu'on rendra public les décisions sur les deux affaires que nous avons étudiées aujourd'hui. Parce que nous avons la chance de travailler rapidement, puisque nous sommes enserrés dans des dispositions qui nous obligent à statuer au maximum en 3 mois. Et donc, l'affaire a été instruite, elle est audiencée aujourd'hui, et elle sera, la décision sera rendue publique la semaine prochaine. Et comme vous le savez, les décisions du Conseil constitutionnel s'appliquent à toutes les autorités. Je suis à votre disposition pour répondre.
Vous avez vu des avocats. En tout cas, les avocats souhaitaient vous voir. Est-ce que vous les avez vus au final et est-ce que vous comprenez leur mouvement?
Oui, alors, ils nous ont accueillis d'ailleurs très courtoisement, mais c'était surtout pour montrer leur détermination. Je les ai salués, bien sûr. Nous ne sommes pas entrés dans une discussion de fond. Nous connaissons leurs revendications. Mais en même temps, nous ne voulons pas les mettre ou nous mettre dans une situation délicate, puisque, comme vous le savez, le Conseil constitutionnel peut, au bout du processus, être saisi de la loi sur les retraites, et notamment, je ne sais pas si ce sera le cas, de cette disposition qui concerne les avocats. Donc, nous ne voulons pas vicier la procédure. Voilà, mais évidemment, nous suivons tout cela.
Pourquoi les déplacements en région sont devenus quelque chose d'incontournable pour vous?
Écoutez, c'est utile. D'abord, les échos que nous avons, avant ce déplacement, mais j'espère que ce déplacement ne fera pas exception à la règle, les échos que nous avons des personnes qui nous accueillent sont très positifs. Alors, échos des magistrats, d'abord, parce que ce sont eux qui nous saisissent ou non, en tout cas qui décident ou non de transmettre les QPC. Et puis les échos aussi des étudiants et des professeurs. Parce que le Conseil constitutionnel, c'est une institution qui est respectée, mais qui n'est pas très bien connue. Et la QPC est à la fois considérée comme très positive par les citoyens, mais enfin, ils ne sont pas tous agrégés de droit. Et donc, venir sur le terrain, montrer concrètement comment les choses se passent, c'est quelque chose que nous jugeons utile et qui est jugé utile. Regardez les deux affaires que nous avons traitées aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des affaires qui concernent tout le monde. Bon, le défenseur syndical, par définition, il est au service des uns et des autres. Les autorisations d'ouverture commerciale, il y a beaucoup de gens qui, évidemment, sont concernés par cela, à la fois en tant qu'usagers ou en tant que commerçants, ou en commerçant, petit commerçant. Donc, nous pouvons bien sûr, et nous le faisons, délibérer dans les beaux locaux du Palais Royal, mais nous pensons que c'est une chose utile de le faire aussi en région. Et j'espère qu'il en sera jugé de même par nos amis de la région lyonnaise.
Je crois, si je ne me trompe, que c'est la 4e fois que vous délocalisez, vous décentralisez, en alternance entre l'administratif et le judiciaire, quelle sera la prochaine délocalisation
prochaine? Alors,
si elle est déjà actée.
Oui, nous avons la chance d'avoir beaucoup de demandes. Et évidemment, le processus ne peut fonctionner que nous sommes bienvenus. Et nous sommes très bienvenus. Le prochain déplacement est déjà décidé dans sa localisation. Il aura lieu à Bourges. Et ce sera à quel moment, Jean?
Le 5 mai. Le 5 mai.
Ah, c'est même la date.
En judiciaire.
Mois de mai. Oui, et là-bas, c'est en judiciaire. Alors, oui, on s'attache à faire une alternance entre judiciaire et administratif, mais ce n'est pas non plus une règle d'évangile. Il se pourrait qu'il y ait deux fois de suite un moment de juridiction. Mais autant qu'on le peut, on essaye de faire l'alternance. Donc la prochaine fois à Bourges, et puis nous avons une liste importante de demandes, donc nous en sommes très satisfaits. Maintenant, bien évidemment, c'est quand même quelque chose qui est assez lourd à organiser, donc il ne faut pas non plus faire ça toutes les semaines. Je dois dire que l'addition que nous avons prise a fait école, puisque dans d'autres pays, à condition bien sûr que les textes le permettent, dans ces pays, d'autres cours constitutionnels ou cours suprêmes ont décidé aussi de se délocaliser. Parfois, ça pose plus de problèmes qu'en France. Par exemple, mon homologue, qui est le président de la Cour constitutionnelle du Canada, a décidé de se délocaliser, mais compte tenu de la taille du Canada, évidemment, c'est parfois un peu compliqué. Mais enfin, il le fait et il m'a dit que ça avait beaucoup de succès.
Marqué, si vous alliez dans les dom-tom, ça serait également une grande enjambée.
Peut-être nous irons une fois, je ne sais pas. Nous verrons. Pourquoi pas. Mais nous faisons aussi attention, évidemment, aux éléments pratiques et notamment financiers.
Un des points originaux, c'est que vous allez rendre les résultats de cette audience dans une faculté la semaine prochaine. Oui. Et vous revenez en plus à Lyon. C'est assez insolite comme démarche.
Oui, c'est doublement insolite. D'abord parce que il n'est pas traditionnel que un membre du Conseil constitutionnel, le président, lui-même annonce les décisions. J'ai décidé de le faire parce que ça rend plus vivante quand même toute la procédure et tout le processus. Deuxièmement, il est important de montrer que le Conseil décide vite. Là, le problème de la justice, vous le savez, c'est une certaine lenteur. Bon. Or, nous sommes enserrés, comme d'ailleurs en amont de la procédure, par des délais. Entre le moment où une affaire de QPC nous arrive au Conseil constitutionnel, inscrite au greffe, et le moment où je signe la décision, il ne peut pas s'écouler plus de 3 mois. Donc, c'est extrêmement rapide par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, même par rapport à un suivi ordinaire des tribunaux. Mais nous tenons beaucoup à cette rapidité, parce que c'est vrai que les décisions qui sont rendues, comme c'est le cas dans d'autres pays, 5 ans, 10 ans après le moment où il y a la saisine, ça n'a plus tout la même portée. Et puis, pourquoi la faculté? Parce que il est important, c'est du droit vivant, si vous voulez. Le QPC, ça n'est pas fait uniquement pour les juges. C'est fait d'abord pour les citoyens, avec les concours de juristes, c'est dans les facultés qu'on apprend le droit. Et en général, le rendu, je vais dans la faculté avec le secrétaire général, Jean Meillat, a beaucoup de succès. Par exemple, ici, à Lyon 3, je crois savoir que déjà, les étudiants, à partir des 2 questions qui sont soumises aujourd'hui, vont eux-mêmes, pour une partie d'entre eux, délibérer sur quelles sont les solutions qu'ils auraient prises et rédiger des projets de décision. La seule différence, c'est que c'est nous le Conseil constitutionnel. Mais ce sera extrêmement intéressant. D'ailleurs, on a prévu un petit temps pour discuter avec eux, parce qu'il n'y a rien de meilleur que les cas pratiques. Hein. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'espère que ce sera le cas. Là, évidemment, on va faire dans le public, surtout des juristes. Bon. Mais même si les gens n'étaient pas juristes ou s'ils sont juristes, c'est se mettre à la place d'eux. Les arguments ont été très clairs. Les avocats ont expliqué leur position clairement. Le représentant du gouvernement, j'ajoute que le représentant du gouvernement, par définition, il prend le soutien de la loi. Même s'il n'en pense pas moins, hein, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui défende la loi. Alors, il se trouve que c'est lui. Bon. Les arguments sont clairs. Donc, j'imagine, moi, c'est ce que j'aurais fait si j'étais dans le public. Dire, tiens, ben voilà, j'ai des arguments. Qu'est-ce que je ferais si je devais moi-même être juge? Bon. Et c'est très intéressant parce qu'ils pourront comparer ce qu'ils avaient pensé avec la décision de justice qui sera rendue la semaine prochaine, que j'ignore, puisque nous allons délibérer de ça dans quelques jours.
En matière, Président, en matière de collaboration avec les étudiants, je crois que le Président Fraisse n'y est pas insensible, puisque ici même, dans cette cour administrative d'appel, pour la troisième ou quatrième fois, je ne sais plus, vous allez procéder dans 8 ou 10 jours à un procès fictif avec d'autres étudiants en droit, cette fois de l'Université catholique.
Oui, c'est ça. Oui. Mais d'ailleurs, à Lyon 3, il y aura à la fois des étudiants de Lyon 2, de Saint-Étienne et aussi de
l'UCLI.
De l'UCLI, c'est ça. C'est fait en lien avec...
Alors imaginez la situation où la totalité des étudiants auraient pris une position... Et vu que ce ne soit pas la vôtre. Alors, vous savez, c'est Lincoln. Hein, 9 voix pour, 1 voix contre, le contre l'emporte. Bon, c'est comme ça. Voilà. Mais on verra, ce sera intéressant. Ce sera intéressant. Alors, le président Fraisse connaît tout ça, et en particulier, comme vous le savez, puisqu'il a été un membre. Enfin,
il est conseiller d'État.
Oui, mais en plus. Il a été le chef du service juridique du
Conseil constitutionnel. À l'accouchement de la QPC.
Voilà. C'est, en fait, vous croyez que c'est le président d'une cour, mais c'est un accoucheur.
Gynécologue. Juste une question technique.
En ce qui me concerne. Quand certains membres du Conseil sont déportés, sont-ils tout simplement obligés de sortir de la salle ou de se mettre en retrait dans certains cas?
Alors, deux choses. D'une part, il n'y a pas d'obligation de se déporter. Quand il y a une question un peu sensible, ils m'en parlent et je leur dis il faut mieux pas, etc. Tout cela a été soumis aux instances européennes. Qui ont laissé une grande liberté de décision au Conseil constitutionnel. Mais, prenez cet exemple, je crois qu'ils ont eu tout à fait raison de se déporter, puisqu'ils étaient sénateurs au moment où on en a, eux-mêmes étaient intéressés dans ce sujet, donc, bon, c'est très bien qu'ils se déportent. Votre question est pratique. Alors, ils peuvent rester dans la salle en étant silencieux, ou bien, ce qui arrive le plus souvent, vaquer à leurs affaires et puis reviennent lorsqu'il y a une affaire qui ne pose pas ce problème qui est soulevé. Mais en général, ça se passe sans difficulté. Que la question qu'il faut avoir à l'esprit, il ne faut pas simplement, selon un vieil adage, que la justice soit juste. Il faut que le public ait la perception qu'elle est juste. Donc là, il y aurait pu avoir une espèce de soupçon de... Donc on élimine tout cela en disant, bon ben voilà, on ne siège pas.
Problème d'éthique.
Oui, problème d'éthique et puis de bon fonctionnement de la justice. Merci infiniment. Merci
C'est nous qui vous remercions. Merci.